Ben voilà, donc bienvenue, c'est du direct, hein, c'est comme ça. Daniel a souhaité que je la présente, ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, Daniel est là en compagnie d'un romancier épouvillé qu'on a eu la chance d'accueillir il y a pas si longtemps que ça. Ben, Daniel, je te souhaite bonne émission et bonjour à ton invité.
Oui, bah, je suis contente que tu sois là parce que moi j'ai peur, on reçoit un monsieur qui fait des thrillers. Bonjour Hervé.
Bonjour Daniel, bonjour Cyril.
Bon alors, comment on peut être aussi gentil dans la vie et imaginer des trucs aussi horribles, puis en faire 600 pages?
C'est sûrement parce que ça ne doit pas aller bien dans ma tête.
Alors, donc Hervé Darc, d'abord, c'est bon, bienvenue.
Merci.
Et Hervé, c'est un épouvillé.
Oui, exactement.
Donc, il y a combien de temps le premier bouquin, il est sorti ?
Sorti en décembre 2012.
Décembre 2012, donc il était venu nous apporter son premier bouquin qui s'appelait
L'opération Flamme Pourpre.
Voilà, et alors on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Hein. Donc nous on s'est dit, c'est un gars d'Épouville, on soutient Épouville, on verra bien. Et finalement ce bouquin il a plu.
Et il a plu et il continue de fonctionner, toujours à ma grande surprise. 3 ans après bientôt, presque 1000 exemplaires vendus sur le Havre et ses environs.
Alors le après l'écriture, donc il y a eu la rencontre avec le public. Mm-hmm. Est-ce que ça s'est passé comme tu pensais?
Ah, c'était vraiment tout nouveau pour moi et oui ça a été rencontre très 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 sympathique. En plus les gens qui me connaissent pourront le dire, je suis un grand bavard, j'adore discuter, j'adore aller au devant des gens, donc ça a été vraiment des moments inoubliables.
Ah oui, alors tu discutes mais tu donnes pas les secrets de ton livre. Hein.
Ben non, faut toujours donner l'envie de lire mais faut pas dévoiler de trop.
Il y a du suspense. Alors donc moi je précise aux auditeurs, j'ai lu le premier livre attentivement, j'ai pas lu le deuxième. Donc dans le premier livre, il y avait du rebondissement.
Oui, c'est ça. On était sur un mélange polar thriller avec une première partie plutôt policière avec une enquête et une deuxième partie plutôt thriller avec les multiples rebondissements jusqu'au dénouement. Et c'est un petit peu ce qu'on va retrouver par la suite dans les prochains romans, sans peut-être cette partie policière, peut-être directement plus du thriller, comme tu le disais en début d'interview.
T'as vu, on est en direct, il y a un téléphone qui sonne, c'est horrible.
On dira que c'est celui de Cyril, comme ça, nous, on se fera pas engueuler.
Ah non, c'est le mien, hein, je veux bien. C'est le mien. Alors, donc, beaucoup d'émotions à sortir le premier livre. Faut être gonflé quand même pour faire ça.
C'était un pari quand même, oui, sachant que ça a été vraiment inattendu. Déjà, l'écriture du roman, comme je l'avais expliqué à l'époque, c'est peut-être quelque chose qui aurait jamais dû arriver dans ma fameuse chambre d'hôtel à La Rochelle. Et puis, 13 mois après, une fois que le texte était fini, bah, quelques personnes l'avaient lu et m'avaient dit « mais sors-le, tu vas voir, ça va forcément plaire, ça n'a rien à envier à certains romans déjà publiés ». Et puis bah, voilà, j'ai franchi le pas.
Alors donc il y a eu la rencontre avec le public et puis après comme l'opération Flamme Pourpre, les protagonistes se baladent en Suisse, tu es allé en Suisse?
Oui, j'ai eu le plaisir, alors ça c'était courant de l'année 2014, j'ai eu le plaisir d'aller dans un des endroits cités dans le roman, qui est le Crown Plaza, l'hôtel Crown Plaza où il se passe une bonne partie de l'histoire sur la deuxième moitié du roman, et j'ai pu aller voir de mes propres yeux les endroits que j'avais décrits via internet, via les photos du site, via les photos de Google Street, de Google Maps et tous ces outils-là.
Donc les gens de l'hôtel, ils devaient être surpris quand t'es arrivé avec ton bouquin.
Ah oui, surpris, surtout qu'on avait quand même échangé longtemps à l'avance, puisque je leur avais expliqué que j'avais écrit un roman, que je citais l'établissement dedans, donc savoir si ça gênait pas. Alors au contraire, ils ont dû me prendre sur le coup pour peut-être quelqu'un de connu, parce qu'ils m'ont dit « ah super, on est cité dans vos roman », j'ai dit oui, mais enfin calmez-vous, si on vend 100 romans ça sera très bien, mais ils m'ont accueilli à bras ouverts. D'ailleurs il y a même des photos qui sont disponibles sur le site internet du roman, je vous en reparlerai après, où les lecteurs qui ont lu le livre peuvent vraiment voir ce que moi j'ai vu de mes yeux.
Alors donc après on s'installe dans sa vie d'auteur, Parce qu'on fait son site, on tweet, hein, ça...
Ah bah on est moderne.
Oh là là.
Alors oui, le site, on l'a monté en parallèle. J'ai un webmaster en or, hein, qui est très timide, qui ne veut pas que je parle de lui, donc à mon grand regret, parce qu'il mérite vraiment beaucoup de pubs. Il m'a construit un site vraiment qui est hyper ergonomique et hyper ludique. C'est-à-dire que le but, c'était de faire vivre le livre en parallèle et après la lecture. Et pour ça, c'est pas moi qui peux faire vivre le livre, c'est plus les lecteurs. Donc il y avait des rubriques, et il y a toujours des rubriques de contact, des rubriques de photos, des rubriques d'interview, où à chaque fois, les gens peuvent interagir sur le site, mettre leur avis, donner un commentaire, etc. Et ça a permis d'avoir énormément de retours avec les lecteurs. Donc ce qui devait être un petit blog au début, effectivement, c'est devenu un site qu'on alimente régulièrement avec lui et qui a évolué là avec la sortie du second roman, puisque le premier site s'appelait www.l'opérationflammepourpre.fr. Maintenant qu'il y a un deuxième roman, on a pris le choix de le renommer et on l'a nommé tout simplement hervedark.fr. Comme ça, s'il y a plusieurs romans ou d'autres choses qui arrivent derrière, au moins c'est plus facile à retrouver quand on fait une recherche sur Google ou sur un autre moteur.
Alors, comme moi j'ai suivi la sortie du premier livre, ce qui est amusant, c'est que finalement chacun se l'approprie de façon très différente.
Oui.
C'est plus ton livre.
Non.
Quelque
non, mais c'est
part.
Vrai, c'est vrai. Moi je l'ai écrit, avec une image en tête, avec enfin plein de choses en tête. Alors le fil conducteur est là pour tout le monde, mais ce qui est vraiment génial, c'est que les lecteurs viennent me dire oh, c'est un livre qui est très visuel, donc les gens se représentent vraiment ce qui est écrit. Et dans 90% des cas, ils se représentent bien la même chose, mais après, les 10% qui restent, c'est vraiment l'imagination de tout le monde qui s'est approprié le personnage, l'action, le lieu, la pièce à sa propre imagination.
Oui, parce que moi, je suis allée à quelques signatures de ton bouquin, et ce qui m'a vraiment frappée, moi, je suis pas une passionnée des polars, c'est la diversité de ton public, parce que de ton lectorat, parce que il y a des jeunes. Il y a des vieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des passionnés de polar qui lisent le livre en une journée.
Oui, ça m'est arrivé deux fois, ça, oui.
Et puis d'autres, bah non, qui lisent ça tranquillement. Et ils ont tous un nom très différent du livre. Finalement.
Oui, oui.
Bon,
oui, oui.
Mais ça te gêne pas que...
Ah non, au contraire, ça veut dire que quelque part, l'histoire arrive à capter l'imagination de différents types de lecteurs, ce qui veut dire que dans leur tête, il a beau se passer la même chose sur la page, dans leur tête, il se passe peut-être des choses un peu différentes qui s'approprient en fonction de leur goût.
Mais au départ, le livre, tu l'écris égoïstement pour toi ou pour tes lecteurs ?
Alors là, c'est plus compliqué. Disons que l'opération Flamme Pourpre, on va dire vraiment, je l'écris pour moi, puisqu'à l'origine, comme je disais, j'avais pas vraiment l'intention de sortir le roman. L'offensive Kérès, c'est différent. Là, et mon entourage me titillait bien avec ça aussi. Là, on m'a dit, t'es attendu. T'as vendu pas mal de bouquins du premier. Là, les gens qui ont aimé le premier vont venir chercher le deuxième. Et là, t'es attendu. Et là, quand je l'ai écrit, j'avoue que j'avais plus la même insouciance et plus le même égoïsme dans l'histoire que sur l'opération Flamme Pourpre, effectivement. Je voulais continuer, je voulais absolument toujours avec Kérès surprendre, c'était un peu ma marque sur l'opération Flamme Pourpre, c'est du rebondissement tout le temps, et surtout surprendre. J'ai pas un lecteur qui a trouvé, enfin je pense, avec le retour que j'ai eu, qui a trouvé l'intégralité de la fin du premier roman. C'est tellement un tiroir que...
Voilà. Voilà. Alors là je suis d'accord, moi j'ai lu, c'est vrai qu'on va de surprise en surprise. Et puis j'ai demandé à des spécialistes, vraiment des gens qui aiment le polar, ils m'ont dit, ça tient la route quand même son histoire.
Hein. oui, c'est ça qui est marrant, c'est de se dire qu'en fait, le début de l'histoire pourrait arriver à n'importe qui. C'est-à-dire que là on n'est pas dans le cadre où on a un super agent secret, un méga journaliste du monde politique ou militaire, ou un super flic. Non, on a un monsieur tout le monde qui se trouve au mauvais endroit au mauvais moment. Et le but, c'était quand même de se dire, fallait que ça reste crédible. Alors, même si, effectivement, on est dans du roman, pour ceux qui n'ont pas lu La Flamme Pourpre, bien évidemment, ce qui se passe dedans, et surtout sur la deuxième partie, heureusement, ça n'existe pas, je dirais, puisque on est dans du thriller et encore heureux, quoi.
Non, on aurait vécu 10 vies si on avait
oui,
une vie.
Je pense qu'on aurait vécu 10 vies. On battait
mais
les chats.
ça reste crédible. Et donc, l'écriture du premier t'a fait grandir quelque part.
Sur le plan littéraire, oui, complètement. Et là, j'ai eu aussi les retours de quelques lecteurs par rapport à l'offensive Keres. On retrouve bien, c'est ce qu'on m'a dit, hein, j'aurais pas la prétention de l'affirmer, on retrouve bien le style. C'est-à-dire qu'on.
C'est bien toi qui l'as écrit.
Voilà, c'est bien, il y a bien un style d'art à première vue. Par contre, on sent que l'écriture est plus fluide, moins répétitive. Alors, il y a toujours ce fichu sujet des descriptions qui reviendra pour tout le monde, mais pas que pour mes romans. Pour l'opération Flamme Pourpre, certains lecteurs me disaient ah c'est bien, mais alors il y a trop de descriptions. Puis d'autres me disaient ah c'est bien, mais il y a pas assez de descriptions, les descriptions sont pas assez longues, etc. Donc là après c'est malheureusement le goût de tout un chacun, mais l'écriture est à première vue, on sent qu'effectivement il y a eu un pas de franchi. Moi je m'en suis pas rendu compte directement puisque je couchais mes lignes au fur et à mesure. Par contre je sais aussi que je les ai couchées plus facilement.
Et alors, maintenant que tu as écrit un premier livre, puis un deuxième, est-ce que tu lis autant les autres ?
Alors, la lecture, malheureusement, j'ai eu un peu moins le temps depuis un an, puisque en parallèle des romans, l'écriture des romans, c'est pas mon métier, hein, c'est un loisir à côté. J'ai créé ma propre société, donc c'est extrêmement chronophage. Hein, donc j'ai eu beaucoup de temps à investir dans le nouveau projet professionnel, et ça a été rogné sur le temps de lecture, le temps de télé, c'est pas plus mal des fois, et aussi sur le temps de l'écriture de Keres, puisque l'offensive Keres, j'ai mis 17 mois, là où j'avais mis 13 mois pour La Flamme Pourpre. Et je pense que si j'avais pu l'écrire d'une traite comme j'avais fait le premier, il serait sûrement né en moins d'un an, le deuxième.
Et maintenant, est-ce que tu lis les polars différemment, ou est-ce que tu regardes les films à la télé différemment, de dire tiens, moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça.
Là, j'ai toujours eu le problème, c'est quand j'adore regarder ce style de film ou de téléfilm ou de série. J'aime pas quand c'est trop téléphoné, et quand en cours de film on est en train de se dire bon c'est évident, c'est ça ou ça, c'est trop gros, etc. Je vous parlerai pas de Star Wars que j'ai été voir et où j'étais énormément déçu à cause de ça.
Bon, on verra quand tu feras une super production au niveau de Star Wars, hein, on verra. Bon, donc après ce bilan du premier livre, on va faire une pause musicale, et puis après on attaquera le deuxième livre. C'est pour ça qu'on a choisi Louise Attaque.
Bah, Louise Attaque, dont le dernier clip a été tourné au Havre.
Voilà.
Seul ici, pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur, un matériau à haute usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Même toi, même toi, tout tourne autour de toi, même toi, même toi. toi, tout tourne autour de moi. Même moi, tout tourne autour de toi. Même moi, tout tourne autour de moi. Même toi, tout tourne autour de toi. Même toi, tout tourne autour de moi. Même moi. Si loin de moi, un grain de poussière.
Oui, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Vallée de la Lézarde. Vous êtes bien calés sur les 103.10. Nous sommes en direct avec Hervé Darc pour la sortie, et oui, déjà de son deuxième livre, L'Offensive Kérès. Donc, dans notre premier quart d'heure, parce qu'il est avec nous jusqu'à 16h. Donc, dans le début de l'émission, donc on a fait un petit peu un point, le bilan du premier livre qui avait été auto-édité.
Oui.
Combien de livres vendus ?
Alors, livre imprimé à ce jour de l'opération Flamme Pourpre, 1050 exemplaires. Et les ventes, le chiffre exact, ça doit être 952 ou 957. J'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, j'approche des 1000 exemplaires vendus.
Et alors, pour le deuxième livre, tu continues dans l'auto-édition ?
Oui, alors pour l'opération Flamme Pourpre, ça a été plutôt une obligation, puisque j'avais envoyé le roman, le manuscrit à plusieurs maisons d'édition. Alors, j'avais eu des propositions de contrats, qui étaient très souvent des éditions à compte d'auteur, donc ce qu'il faut absolument éviter, puisque en gros, vous payez vous-même vos livres, et en plus, vous devez quelque chose à quelqu'un qui n'investit pas dessus. Et après, j'avais essuyé quand même des refus sur les éditions à compte d'éditeur. Et par contre, pour Kérès, c'est un peu différent. Maintenant, j'ai le recul de l'auto-édition, j'ai la capacité d'autofinancement pour la première impression des exemplaires. Donc sur Kérès, ça a été une volonté, et volonté revendiquée. C'est-à-dire que là, j'ai même eu une ou deux propositions pour prendre le roman, et là, moi, j'ai dit non.
D'accord. Alors, même équipe pour le dessin, parce que pour l'opération Flamme Pourpre, il y avait une belle couverture. Mmh. On avait le droit à la photo de l'auteur. Là, l'auteur, il a disparu.
Ah, l'auteur est très timide, donc il a retiré sa photo.
Voilà. Mais donc, on a une belle première page aussi. Donc, même dessinateur.
Alors voilà, je travaille toujours avec Timoun, le dessinateur de Jinroku, qui sait répondre exactement comme s'il lisait dans mes pensées. Je lui donne, entre guillemets, un cahier des charges. Je dis, voilà, j'aimerais que ça soit comme ça, comme ça. Tout ce qu'il y a sur les couvertures, que ce soit sur la première ou la quatrième, c'est forcément en rapport, tous les éléments doivent être en rapport avec l'histoire. Donc j'explique comment je vois le visuel. La statue que vous pouvez voir sur l'offensive Kérès, ça a commencé sur un croquis à main levée sur une nappe en papier dans une pizzeria, et pour arriver à une statue qu'il a fabriquée lui-même par son dessin et par le procédé graphique informatique derrière.
Bon, alors la couverture c'est bien, mais quand même, ce qui compte dans le livre, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Alors l'histoire, elle est arrivée dans ta tête ou le début, à quel moment ?
Alors l'opération Flamme Pourpre n'était pas encore sortie que le prologue de l'offensive Kérès était déjà écrit. C'est-à-dire que en même temps que je finissais le premier roman, j'avais déjà l'idée d'une deuxième histoire. Ce qui me manquait juste, c'était quelques éléments pour relier toutes mes implications et l'endroit où se terminerait l'histoire. L'opération Flamme Pourpre est sortie, donc j'ai profité du lancement du roman. Donc on va dire qu'entre novembre 2013 et février 2014, je me suis plus du tout intéressé à l'histoire, même si elle était là, et j'ai commencé à la réécrire à partir de février 2014.
Alors on précise aux auditeurs, il n'y a aucun lien entre le premier et le deuxième.
Non, ce sont deux histoires complètes, c'est-à-dire que quelqu'un qui arriverait pour lire l'offensive Kérès sans jamais avoir lu l'opération Flamme Pourpre serait pas ni perdu, ni dans l'incompréhension de l'histoire. Non, ce sont deux histoires complètes. Il y a quelques clins d'œil effectivement par rapport au premier roman, que seuls les lecteurs du premier roman pourront voir, mais qui gêneront en rien les lecteurs de la deuxième histoire.
Alors, sans déflorer l'histoire, on peut en parler un peu quand même.
Oui, oui, oui.
Alors, moi, je ne l'ai pas lu. Alors, donne-moi envie de le lire.
Eh bien, le meilleur moyen, c'est de résumer un peu les 20 premières pages. On va suivre les aventures d'un homme qui s'appelle Patrick Rivière, comptable de son métier et qui travaille au World Trade Center du Havre.
Alors, tu t'es inspiré de quelqu'un que tu connaissais ou
non
pas?
Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment les noms, c'est complètement du pur hasard.
Oui, mais le nom, mais ça pourrait être quelqu'un que tu connais dans ton entourage.
Il n'y a pas
de dépressif dans ton entourage.
Alors, des dépressifs, comme beaucoup, j'en connais plein, surtout c'est dans l'heure du temps. Mais des Patrick Rivière, j'en connais aucun.
D'accord.
Donc, ce Patrick Rivière, dépressif, pourquoi? Puisqu'on est en octobre 2013. Il vient de perdre ses parents dans un accident de voiture terrible qui impliquait un chauffard. Le chauffard n'a pas été arrêté. Donc, il n'arrive pas à faire le deuil de la mort de ses parents. Donc, il faut savoir que c'est un cadras fils unique d'une vieille bourgeoisie de Sainte-Adresse. Et il reste tout seul dans sa grande demeure familiale. Il est divorcé. Il a eu un mariage un peu sévère puisque ça a été un des rares hommes battus sur le territoire. Donc, quelqu'un qui est psychologiquement très, très faible. Et le début de l'histoire se passe de la façon suivante. Il est dans son bureau au World Trade Center, derrière l'hôtel Mercure du Havre. Et le téléphone sonne un matin de novembre, et une voix qu'il ne connaît pas du tout lui apprend qu'elle le suit depuis plusieurs jours et que là, il est en train de courir un immense danger s'il reste à son poste, puisqu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans le World Trade Center pour lui mettre la main dessus. Et la voix termine en disant « ça a rapport avec la mort de vos parents ».
Donc, suspense.
Suspense.
Et ça, c'est bien le style Hervé Dark.
Ça, c'est très proche, oui. Hein? Très proche de La Flamme pourpre.
Et donc, il y a à peu près la moitié du livre qui se passe en région havraise.
Voilà. Donc là, grande différence par rapport à La Flamme pourpre, qui était plutôt sur des lieux fictifs basés sur le nord de la région parisienne. Là, on va retrouver le Havre, alors avec différentes institutions. On va se promener dans l'hôtel de police, boulevard de Strasbourg. On va revoir la roseraie et entendre parler de la roseraie à l'époque où c'était une maternité.
Oui.
On va passer par HPE, on va passer par les docks, le centre commercial des docks pour se retrouver dans le quartier de l'Eure. On va faire un peu d'architecture. Alors ça prend 10 lignes, hein, je voudrais pas avoir l'air de barber les lecteurs non plus, mais moi j'ai appris d'où venait le Nice à Vray et d'où venait cette fameuse passerelle du bassin des commerces. Donc
oui.
On va traverser tous ces endroits-là. Et après, on va graviter un petit peu en périphérie. On va rencontrer quelques personnages dans Fontaine-la-Mallet, dans Montivilliers, il va y avoir une traversée sous la pluie. Et si on peut faire un bon coup de teaser, il va même y avoir un meurtre à Épouville.
Un meurtre à Épouville ?
Eh oui.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ouh !
Alors, ouh,
on va pas, qu'on peut le dire ?
On va pas en dire de trop. C'est-à-dire qu'on va arriver, un des héros va arriver dans Épouville à la recherche de quelqu'un en particulier. Alors, tout le tracé de son parcours va être vrai jusqu'à la maison. La maison, elle, est complètement fictive.
Et, on pourra pas la trouver.
Alors, c'est bizarre parce que, en fait, on pourrait en assimiler une qui pourrait lui ressembler. Alors par contre, quand je l'ai écrit, je n'avais pas du tout cette maison-là en tête, mais la situation géographique fait qu'effectivement, ça pourrait être cette maison-là. Mais j'en dis pas plus. Alors je vais juste vous la situer vite fait dans le parcours. Le meurtre aura lieu dans le chemin du Grès, donc je m'excuse auprès de tous les habitants.
Mon Dieu, c'est un homme ou une femme qui meurt ?
Faudra lire pour savoir.
Ah, bon. Parce que dis, tu sais que pour les livres d'Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, sont très connus en Asie, et il y a des Asiatiques qui viennent par car à Étretat voir sur les traces d'Arsène Lupin. Mmh. Tu vois pas que tu sois au démarrage d'une opération touristique formidable à Épouville.
Ça sera génial pour Épouville, mais on va quand même garder les pieds sur terre. Hein, c'est, ça sera pas mal.
Bon, on sait pas. Hein. On sait pas. Ça serait rigolo.
Ça serait marrant, effectivement.
Hein, ça serait rigolo. Bon, et donc les personnes. Alors bon, là c'est personnel. Je trouvais que les personnages dans le premier livre, il n'y avait pas trop d'épaisseur. Est-ce qu'il y a un petit peu plus d'épaisseur ?
je serais mauvais juge pour le enfin pour le dire, sachant que je suis à l'origine et à l'écriture de tous ces personnages-là. Le caractère des personnages est complètement différent. C'est-à-dire que pour la Flamme pourpre, et sans faire de teaser pour ceux qui l'ont pas lu, on avait plutôt un monsieur tout le monde et une madame tout le monde
oui,
en pleine
beaucoup...
forme, gentille, quoi, voilà, tout,
voilà,
tout allait bien.
L'écriture était beaucoup tournée sur l'action et les lieux.
Voilà. Alors là, on a quand même un personnage principal qui est beaucoup plus torturé, où ça va se retrouver quand même régulièrement dans le livre. Et on a d'autres intervenants. Alors, je dirais pas qu'ils ont plus d'épaisseur, je dirais peut-être qu'ils ont plus de caractère.
D'accord, voilà. Parce que dans Flamme pourpre, les gens, ils étaient quand même un petit peu tous isolés. C'était pas des gens qui étaient très, très entourés quand même.
Ah bah là, ça, on va retrouver le même type de scénario.
Voilà.
Et surtout notre pauvre dépressif qui va se retrouver tout seul dès le début du roman.
Seul contre tous.
Oui.
Bon, et alors après, donc il y a la moitié du bouquin qui est sur le Havre. Donc on se balade dans le Havre. T'as fait ça exprès pour flatter les lecteurs ?
Bah ouais.
Ah, puis il dit encore en plus.
Mais en fait, quand j'ai écrit l'histoire, j'aurais pu situer l'histoire vraiment n'importe où. Ça aurait pu commencer à Rennes, ça aurait pu commencer à Rome, à Stockholm, n'importe où. En fait, je me suis dit, après tout, je suis en auto-édition. Le maximum de livres que j'ai vendus de l'opération Flamme pourpre, c'est-à-dire les 90%,
oui,
c'est sur le Havre et ses alentours.
Oui.
Que diable, faisons vivre nos héros au Havre et remercions quelque part, entre guillemets, nos lecteurs en offrant une histoire qui se trouve chez eux, quoi, tout simplement.
Alors, tu parles pas beaucoup du port ? Parce que souvent, polar, port, non, ça...
Je peux pas tout dire, Daniel, sinon ils vont plus acheter le livre, les gens.
Bon.
Mais bien sûr qu'on va retrouver le port du Havre.
Ah oui, parce que tu nous parles des rues, des constructions, ouais, tout ça, mais il y a le port,
oui,
quand même.
Il y a même deux ou trois événements très importants pour l'histoire qui vont se dérouler dans le port.
Tu vois, ça intéresse, tu vois. Moi, je vends ton livre, tu vois. Ça intéresse toujours les histoires dans le port.
Vraiment, je pense que j'ai pris des endroits assez emblématiques dans la tête des gens des environs. Pas uniquement des Havrais. Là, la Roseraie, par exemple, je pense que la Roseraie, dans la tête de tous les Havrais,
oui,
c'est pas aujourd'hui la maison de convalescence telle qu'on la connaît. C'est vraiment la maternité. Aujourd'hui,
oui,
on connaît tous.
Tu sais qu'il y a des personnes célèbres qui sont nées là.
Ah oui ?
Bah oui, apparemment, il y a Cyril.
Cyril est né à la Roseraie.
Exactement,
voilà.
Je suis né à la Roseraie.
Voilà, c'est important
donc,
quand même.
Donc Cyril, il faudra découvrir le livre pour ce passage à la Roseraie.
Bon, alors, donc, ça se passe la moitié au Havre. Et alors après, tu nous emmènes où ?
Après, je vais vous emmener voyager dans deux endroits différents. Mais j'ai pas envie de citer les pays. Il faut
Hors France.
Hors France, bien sûr.
On peut quand même dire un petit peu quelque chose.
Allez, je vais quand même en citer un sur les deux. Je vais quand même vous emmener faire un petit voyage à New York.
Ah, ça c'est sympa,
ouais,
ça.
Et l'histoire se terminera. Et tous les protagonistes de l'histoire se retrouveront sur un troisième endroit, en Europe également, mais ça sera pas en France.
Bon. Bah, je suis quand même contente. On arrive à savoir des trucs. Hein,
Et on voyage un peu.
Et on voyage. Et bah, on va aller voyager avec Monsieur Bowie, Under the Pressure. Te sens-tu Under the Pressure ?
Oh non, pas du tout. Je suis en très bonne compagnie, je suis détendu, je suis pas du tout under pressure.
Ah ben moi, ça me fait quand même peur de recevoir un auteur de thriller. Je me dis, on sait jamais s'il passe à l'action, s'il me tue en direct. Hein. Bon, on écoute Bowie. You said New York, New York is dangerous, cause you read that where you may. Even the blind man could see that's not so. The burns are building down.
into puts people on streets.
So slashed and torn.
Under Pressure, David Bowie, en compagnie du groupe Queen. Retrouvez tout de suite Daniel et son invité Hervé Darc.
Oui, merci Cyril. Eh bien oui, on passe un moment passionnant avec Hervé. J'espère qu'on vous donne envie de lire le livre, parce que de lire un livre, ça nous emmène dans un univers complètement autre. Et c'est peut-être ce qui explique aussi les couleurs de la couverture.
Ah, les couleurs de la couverture, donc l'atmosphère terrestre, du globe terrestre, donc l'espace, et puis cette statue grecque éclairée par la base d'un globe terrestre qui subit une espèce d'implosion, donc en rapport avec le thème de l'histoire.
Donc on rappelle que Hervé Darc, il habite à Épouville, et son premier livre, il l'avait lancé à Épouville. Et le deuxième aussi, donc oui. Ça a été impressionnant, le lancement du livre le 11 décembre, bon, très modestement, c'est une bonne date puisque c'est la Saint-Daniel. Il y avait du monde, hein. C'était impressionnant.
Ah, c'était vraiment, vraiment impressionnant. J'attendais du monde sur la durée, mais je pensais avoir le temps de discuter un peu avec tout le monde et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde que ça. Et lorsque les premières personnes sont arrivées et que j'ai commencé à me pencher sur les livres pour signer les 5-6 premiers exemplaires, quand j'ai relevé la tête juste après et que j'ai vu la queue jusqu'à l'autre bout de la salle, j'ai eu une bouffée de sueur froide. Ça m'a limite étouffé, quoi. C'était impressionnant. Et il y avait parfois jusqu'à 1h15 d'attente pour avoir le livre.
Mais alors, t'as signé jusqu'à quelle heure?
Ah bah on a commencé à 18h, j'ai signé jusqu'à 9h-10, je crois, 9h-15, 9h-10, quelque chose comme ça.
Sans pause. La main a tenu.
La main a tenu, mais la mairie avait vraiment très très bien organisé le truc et il y avait quand même de quoi refaire le plein d'essence. J'avais une petite coupe de mousseux qui arrivait de temps en temps pour recharger les batteries.
Ah d'accord, on le chouchoute notre auteur.
Hein. C'est vrai que j'ai été chouchouté, ils ont vraiment très très bien organisé la chose.
Alors, on rappelle que tu as un site internet.
Oui, donc qui s'appelle www.hervedarque.fr, donc Hervedarques.
D'accord. Et alors, les dédicaces, ça continue ?
Oui. Alors, il y a eu la phase de lancement qui s'est déroulée. Donc, le 11 décembre, on a eu l'avant-première. Devait y en avoir une à la FNAC le 12 décembre, qui, elle, s'est trouvée reportée. Après, il y a eu le lancement complet qui a fait 18 à Auchan-Montivilliers, 19 Auchan-Montgaillard, le lundi 21 plein ciel, le mardi 22 à Leclerc, le 23 à Pont-Audemer. Et là, à partir de février, je reprends sur Barentin au Cultura. Ça doit être le 5, le 6, la date de la FNAC donc, qui avait été reportée. Donc là, je serai au Havre. C'est la seule date sur le Havre d'ailleurs avant l'été. Bonne occasion pour faire un cadeau pour la Saint-Valentin d'ailleurs, j'en profite.
Entre autres.
Et donc le 12, je serai à Cultura, Mondeville-Camp. Et il y a encore une date à confirmer qui sera très certainement fin février, voire début mars, à Auchan-Dieppe. Et le projet, là, actuellement, c'est aussi, je suis en train de négocier pour, je vous en parlerai plus longuement la prochaine fois, mais très certainement sur Lens, dans le Nord, courant mois avril ou courant mai.
Alors, lors de ces dédicaces, tu as déjà eu des retours de lecteurs ?
Oui. J'ai eu alors des retours qui m'ont fait énormément plaisir. Alors je dis pas qu'un retour de quelqu'un qui aime pas c'est forcément blessant, puisque après tout c'est la critique, quand elle est constructive, elle fait avancer. Mais là j'ai eu des gens qui sont revenus me voir, qui avaient acheté le roman lors de l'avant-première à Épouville, et qui sont revenus sur une ou deux séances la semaine d'après pour me dire: j'ai terminé le livre, j'ai adoré, j'ai traversé les rues du Havre aux côtés du héros. Et là, dans ma tête, je me suis dit bon, bah le pari havrais entre guillemets de décrire sans saouler les rues du Havre et le petit parcours de Patrick, ça a marché.
Est-ce que tu fais lire tes épreuves à ton entourage ?
Oui, je suis très 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 bien entouré de ce côté-là. J'ai un comité de lecture qui s'est un peu élargi depuis l'opération Flamme Pourpre, où il y a à peu près 20 personnes qui assistent vraiment à la création du livre en même temps que je l'écris. C'est-à-dire que ces 20 personnes, j'avance généralement par tranche de 10, 20, 30, voire 40 pages, mais 40 c'est rare, c'est plus entre 10 et 30. Et régulièrement, quand j'ai atteint ce quota de pages écrites, je leur renvoie à tous en disant voilà, l'avancée de l'histoire, eux lisent et me font des retours. Alors ils en profitent pour faire un premier jet sur les corrections orthographiques.
Parce que sur le premier, il y avait du boulot. Ah,
première édition, on en avait parlé, ça a été une catastrophe. Maintenant, la troisième édition, on peut jamais dire parfait, parce que même dans les livres qu'on va chercher chez les grands éditeurs, il y a malheureusement encore quelques fautes qui se baladent à gauche et à droite. Mais dans l'opération Flamme pour troisième édition, il n'y a quasiment plus de fautes. Dans KRS, j'ai eu deux ou trois notifications comme quoi il y avait peut-être une ou deux fautes qui se baladaient par-ci par-là, mais c'est vraiment très 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 rare. Donc en fait, le travail de ce premier comité de lecture, c'est de me dire, non pas j'aime ou j'aime pas l'histoire, parce que je dirais entre guillemets leur goût m'importe peu, puisque l'histoire elle est déjà dans ma tête.
Oui.
C'est surtout la cohérence. Est-ce que je me suis pas emmêlé les pinceaux, est-ce que j'ai pas fait quelque chose qui est incohérent avec l'histoire, etc. Et puis j'insiste toujours à leur demander: est-ce que vous êtes toujours dans ce qu'on appelle du page turner, à savoir est-ce que vous avez toujours envie de savoir la suite? Un livre où au bout d'une dizaine de pages on commence à s'essouffler et on n'a plus envie de les tourner, il y a un souci. Si on n'arrive pas à garder le lecteur en haleine tout le temps, il y a un souci. Donc le rôle du comité de lecture, c'est aussi de me taper sur les doigts si jamais ça va pas. Et ils le font très très bien.
Alors pour les spécialistes de polar, le livre L'Offensive Kérès, ça serait dans la veine de quel auteur plus connu que toi pour l'instant?
Oui, alors c'est souvent comparé, alors que ce soit Kérès ou La Flamme Pourpre hein, d'ailleurs, même si Kérès n'a pas cette partie policière qu'avait La Flamme Pourpre, là on est vraiment dans du 100% thriller. Les histoires ont été comparées, alors pour deux auteurs français, ça serait plus dans le style Granger-Minier. Alors avec tout plein d'humilité, c'est pas moi qui le dis.
Oui, c'est le style.
D'accord. Le style, voilà. Et pour ce qui serait plutôt des auteurs anglo-saxons très connus, là on serait plus dans du Dan Brown, Cobain, encore que Cobain parfois est très très policier, là on serait plus dans du Brown, Ludlum, des choses comme ça.
Alors qu'est-ce que... Parce que c'est quand même un rêve de sortir un livre et qu'il ait une écoute. Donc maintenant que tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, c'est quoi ton rêve ? Qu'on en fasse un film ? Le rêve inatteignable. Bon, c'était pas de faire une émission avec Daniel.
Ah bah si, mais c'était pas marrant, c'était atteignable. Non, c'est oui, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est vrai que tout le monde dit que le premier est, enfin tout le monde, tous les lecteurs disent quand même que le premier pourrait facilement être adapté en
traduit,
film.
Traduit, ouais. traduit.
Ah, traduit, ça serait. Je crois que traduit, c'est vrai que ça serait. Ça sera quand même une consécration. Ça voudra dire que des gens pensent qu'on pourrait l'emmener dans d'autres pays et le faire découvrir à d'autres, d'autres pays. Ouais, c'est vrai que ça serait une belle, vraiment une belle récompense. Hein. Mais je me suis jamais vraiment posé la question. En fait.
Pour le 500e anniversaire de la ville du Havre, faire découvrir la ville du Havre avec ton livre.
Ah bah, je pense que la mairie pourrait m'acheter quelques exemplaires pour la donner au Havrais, ça serait pas mal.
On a des idées à Épouville, hein,
Je vais, leur en toucher deux mots.
Bon, on va appeler de ce pas, puis pendant ce temps-là, on va faire une pause musicale. Cyril nous a calé Isia, mais on ne sait pas quel titre.
So much trouble.
Ah bah alors ça marche, c'est bien ça aussi comme titre.
Isia la fille d'Igelin, je ne sais pas si vous l'avez.
Bah pensé. oui, tout à fait.
Oh,
Isia sur Radio Vallée de la Lézarde.
Et oui, c'est Daniel qui a le plaisir de recevoir Hervé Darc, qui écrit des livres pour son plaisir. Et donc finalement, comme c'est écrit avec plaisir, bah, c'est agréable à lire. Moi, je parle pour le premier. Oui. Parce que j'ai parlé des fautes d'orthographe, mais sinon, c'est agréable à lire. Et puis, donc, ce plaisir, tu vas l'offrir aussi à quelques auditeurs de RVL, puisque tu vas faire gagner des livres, bon, prochainement.
Oui, je vais laisser deux exemplaires du roman que je me ferai un plaisir de dédicacer au vainqueur du petit concours que vous organiserez le moment venu.
C'est classe, hein, quand même. Oh,
c'est seigneur. Hein.
Oh là 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 là.
Alors, pour revenir sur les fautes, justement, on en avait parlé avec l'opération Flamme Pourpre. C'est vrai que la première édition avait été corrigée vraiment par des bénévoles. Et tu me posais la question tout à l'heure, juste avant la coupure, pour la création et le comité de lecture. Il faut savoir qu'après, en aval, une fois que l'histoire est terminée d'écrire, là, il y a l'équipe des correcteurs qui rentre en jeu. Donc aujourd'hui, j'ai 2-3 personnes qui font un premier écrémage, cette fois sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, puisque quand j'écris, je suis pas une dactylo, donc j'ai tendance à regarder mes doigts plutôt que l'écran. Et donc, du coup, je laisse des textes chargés d'énormément de fautes. Et eux, leur premier travail, c'est ça. Donc, j'en ai une qui est à Arles, j'en ai une qui est à Nice, et j'en ai une qui est à Turteau. Ils se reconnaîtront
Mais comment tu les as rencontrés, ces gens-là?
Par le biais d'Internet, des réseaux d'écrivains, de correcteurs, mon propre réseau aussi. Et eux, ils ont une grosse, grosse mission pour faire vraiment un très, très gros écrémage. Et après, une fois que ça, c'est fait, il y a l'ultime correctrice qui est Agnès Rabotin. Alors là, elle, je la cite vraiment. Pourquoi? Parce que les gens qui vont écouter l'interview et qui étaient là le 11 décembre vont la reconnaître. Elle était présente à mes côtés pour présenter son roman. Et elle, sa mission, c'est toujours passer à l'écumoire les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, etc. Et surtout, elle a un œil global sur le texte. C'est-à-dire qu'elle refait la mise en page, elle refait les structures, elle refait absolument tout. Elle touche pas un poil de l'histoire, ni de mon vocabulaire, ni de mes tournures. Mais parfois, elle me fait des propositions quand elle estime qu'il y a une faute de français ou il y a une faute de sens aussi.
Oui, parce qu'on va refaire un retour en arrière. Il me semble me rappeler que le français à l'école, c'était pas forcément ta matière numéro un.
T'as une bonne mémoire.
Hein?
Non, effectivement, le français à l'école, ça avait jamais été. Moi, j'aimais bien tout ce qui était grammaire, orthographe, tout ça. Effectivement, j'étais pas bon en rédaction, j'étais pas bon en fiche de lecture.
Oui, mais c'est ça qui est formidable. Tu n'étais pas bon en rédaction et tu fais des bouquins de 600 pages qui se vendent comme quoi tout est possible.
Tout est possible, puis il n'y a jamais rien de décrit, quoi.
Voilà.
C'est facile, je sais, c'est facile.
Alors, il n'y a pas que de l'écriture dans ce bouquin-là. Parce que moi, c'est un peu bizarre. J'aime lire et souvent, je lis la dernière page. Alors, tu m'as dit, mais il ne faut pas lire la dernière page. Bah, je dis, oui, mais bon, moi, je regarde quand même.
Et tu as été surprise.
Et voilà, parce qu'il y a des photos.
Eh oui. Alors, en fait, il faudra considérer l'Offensive Keres comme un DVD. En plus d'être un livre visuel, j'ai fait un bonus à la fin. Un bonus sous forme, en fait, d'une vingtaine de photographies qui vont reprendre. Alors, ce sont pour la majeure partie des photos, des vraies photos qui représentent les vrais lieux traversés dans l'histoire. Donc, je vous ai parlé du Havre, vous retrouverez des photos du World Trade Center, de la passerelle du bassin du commerce, l'hôtel de police, le port. Il y aura des photos de New York dans les quartiers qui sont visités. Et puis, il y a aussi des dessins. Il y a une ébauche de Timoun sur ce qu'était le démarrage de la couverture avec la statue.
Alors, attention, ceux qui n'ont pas écouté l'émission du début, Timoun, c'est le monsieur qui dessine les couvertures.
Le concepteur des couvertures, exactement. Et vous trouverez aussi un peu de pub, Ne nuit pas, la couverture du roman d'Agnès Rabotin, Origine, qui elle sévit dans un registre plutôt fantastique, romantique, avec une écriture incroyable aussi.
D'accord. Et alors, prochainement, enfin non, c'est au mois de mars, on peut te retrouver à Turteau.
Oui. Alors là, tout à l'heure, on a parlé des dates de dédicace où je serai seul. Il y a aussi des salons. avec plusieurs auteurs. Donc au mois de mars, Agnès et Timoun vont revenir à mes côtés pour participer au Salon du Livre de Turteau. Ça sera le 27 mars de 10h à 18h. Et puis j'ai eu aussi l'info cette semaine, je serai présent au deuxième petit salon du Lire et des auteurs normands à Saint-Romain-de-Colbosc le 9 octobre au château de Grosménil. Alors d'ici là, il y aura d'autres dates que je me ferai plaisir de transmettre à la radio pour les deux.
Et puis aussi, on peut te suivre par ton site internet.
Alors voilà, il y a la page officielle Facebook, puisque j'ai mis fin à mon profil il y a peu de temps pour le transformer en page officielle. Donc il y a juste sur Facebook à taper Hervé Darc. Et sur le site officiel www.hervedarcues.fr.
Alors forcément, une question. Est-ce qu'il y a déjà un troisième livre dans ta tête ?
Il y a un proverbe qui dit jamais 203. On verra si ça se vérifie ou non.
Donc il y a quelque chose, il y a un germe.
On verra.
Mais même dans ses yeux, j'arrive pas à savoir. C'est ça qui est vraiment enquiquinant. Mais bon, moi je pense que tu vas pas t'arrêter là.
Je crois que quand on y a goûté une fois à l'écriture puis que ça fonctionne, on n'a pas envie de s'arrêter non plus. Le problème, c'est que faut avoir les idées. Je ne vais pas m'amuser à écrire quelque chose si je n'ai pas l'idée.
Bon, alors, pour ceux qui prendront l'émission en cours de route, on rappelle l'offensive Kérès, la moitié du bouquin, c'est au Havre.
Le Havre et ses environs, oui.
On se balade. Forcément, il y a des meurtres là-dedans.
Ah oui, oui, oui.
Il y a des morts.
Il y a quelques morts douces et il y a quelques morts violentes.
Bon. On se balade à Épouville, où il y a aussi un meurtre à Épouville. Bon. Alors, dans nos douces campagnes, il se passe des trucs hein, sous la plume d'Hervé Darc.
Vous verrez Épouville différemment et le chemin du Grès différemment.
On va plus oser y aller. Et puis, on souhaite bonne chance à ce deuxième livre.
Merci beaucoup.
Et j'espère que tu trouveras toujours du temps. Imaginons que tu deviennes vraiment un écrivain à succès mondial. J'espère que tu trouveras toujours du temps pour revenir là où tout a commencé.
Et c'est ce qu'il y a à dire, il ne faut jamais oublier d'où on vient, jamais oublier ses origines et je serai toujours là.
Bon, alors donc il nous reste quelques minutes, je te les offre. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire, qu'on n'a pas dit, abordé ?
Eh ben, c'est vrai qu'on a parlé de quasiment tout. J'ai beaucoup de gens qui me demandent justement, en me croisant à Épouville, alors le bouquin, t'en es où ? Est-ce que ça marchait et tout ? Donc là, je ne sais plus si on a parlé des ventes justement de Kérès, mais sur les cinq premières rencontres, il y a eu presque 267 romans de vendus. Voilà, donc je ne sais plus si on en avait parlé ou non.
Je ne m'en rappelle pas dans ce qu'on dit à l'antenne et hors antenne.
Voilà, donc, c'est ça. On a pas mal échangé hors antenne aussi.
Donc hors antenne, donc on a bien évoqué que l'opération Kérès, l'offensive Kérès partait plus vite.
Partait beaucoup, beaucoup plus vite que l'opération Flamme Pourpre. Et ce qui est assez incroyable, c'est de voir que l'opération Flamme Pourpre continue de se vendre tout seul. J'ai sorti un coffret. Qui a été inauguré aussi le jour de l'avant-première à Épouville. Et ce coffret, je me suis dit, bon, ça va être vraiment pour des gens qui n'ont pas du tout découvert le premier ou des gens qui ont découvert, au contraire, qui veulent offrir le coffret. Et en fin de compte, je m'aperçois que l'opération Flamme Pourpre, en parallèle du coffret, tout seul, fonctionne toujours très très bien. Donc je pense que le roman, même le premier roman, il a beau avoir 3 ans, il n'est pas prêt de s'éteindre tout de suite.
Et est-ce que tu échanges avec d'autres auteurs ?
Oui, alors ça c'est... même dans le coin, là, on a Ludovic Miserolles qui est sur Angerville-Bayeul, qui vient de sortir Zamor, qui lui est un roman plutôt historique. Vous voyez, c'est des rencontres super enrichissantes. Quand, en plus, on n'est pas dans les mêmes domaines littéraires, on échange sur plein de choses, on se croise soit sur des salons, soit en aparté.
Alors le Havre, est-ce que l'atmosphère du Havre inspire plus pour écrire des polars ? Parce qu'on a quand même le festival du polar.
Oui, il y a Deux flics sur les docks aussi, là, c'est la série télé. Oui, je pense qu'il y a vraiment matière à matière à faire naître et finir de nombreuses histoires plus ou moins morbides, sordides ou tordues.
Et alors toi, ton plus beau livre, lequel tu préfères ?
Oh. Alors ça, c'est une vraie colle.
En polar ou en auteur que tu préfères, toi?
Moi, ça ne serait pas, du polar. Ça serait plus dans du fantastique. J'étais un grand lecteur de fantastique quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, en termes d'écriture et de ressenti, moi, il y a personne qui a réussi à me faire ressentir autant de choses qu'Howard Philip Lovecraft, qui est le créateur de la mythologie de Cthulhu, le cauchemar d'Innsmouth, l'université d'Arkham, etc. Avec le fameux Necronomicon, s'il y a des lecteurs de littérature fantastique, c'est forcément des mots qu'ils ont croisés une fois dans leur lecture. Et pour moi, c'était un des auteurs du début du siècle, début du 20e, qui était à même de faire ressentir des choses sans dialogue, parfois, la plupart du temps, juste avec des descriptions basiques et des ressentis.
Ressentis d'émotion sur du suspense, sur l'action,
sur de la terreur. Non, c'était pas de l'action vraiment. Lui, c'était plutôt, on ressentait ce que ressentaient des gens qui avaient vu quelque chose, mais on ne voyait jamais ce que les gens avaient vu. Et c'est là où c'était très très fort. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est envahi avec les effets spéciaux. Aujourd'hui, dans un film, il faut en voir le maximum pour que le film soit réussi. Lui, c'était le contraire. Il fallait en voir le minimum pour que le ressenti soit là. Et pour moi, il n'y a personne qui a réussi à faire aussi bien que lui. Hormis peut-être Stephen King dans ses premières années.
C'est un peu moins fameux ce qu'il fait maintenant. C'est bien. Moi, je trouve que je me permets... Tu vas devenir de mieux en mieux dans ton écriture, parce que tu parles bien de tes bouquins et tu parles bien du bouquin des autres. Ça, c'est intéressant.
C'est gentil, merci.
Bon, et notre heure est terminée, dit.
Déjà.
Donc, qu'est-ce qu'on se dit? À bientôt.
Surtout un grand merci d'avoir reçu, parce que comme la dernière fois, on a passé un excellent moment. En plus, je sais que maintenant Cyril est né à la roseraie, donc c'est super.
Bah oui, ça.
Et puis je pense qu'on s'en reverra quand même.
Je pense que les auditeurs ont apprécié t'écouter et qui s'ils veulent découvrir. J'espère qu'on leur a donné envie de lire et de lire ce livre. Voilà.
Merci beaucoup.
Parce que quand on lit, c'est la liberté, on s'évade.
Et attention, comme on dit, la lecture peut nuire à l'ignorance.
Ah, oh là 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 là. De plus, monsieur est intellectuel. Merci beaucoup de ta gentillesse. Et puis, à bientôt. Bon week-end à nos auditeurs et auditrices.
Bon week-end, merci.